Vous êtes bien sûr Radio Orient. Les députés ont voté pour la troisième fois la proposition de loi sur l'aide à mourir. Olivier Falorni, interrogé à l'Assemblée nationale, défend une loi de liberté et de fraternité. Un texte que lui-même a porté lorsqu'il était député. Il parle d'une étape décisive après 2 années de débats, de navettes, d'opposition et de convictions échangées. Olivier Falorni, aujourd'hui maire de La Rochelle, est l'invité de Pluriel. Olivier Falorni, cela fait des années que vous travaillez sur cette question de la fin de vie, sur à la fois l'augmentation des soins palliatifs en France, mais aussi le droit des personnes qui souffrent à bénéficier de ce qui est appelé l'aide à mourir. Ce texte, en quoi est-ce, selon vous, une grande avancée sociétale ?
Je crois que c'est une loi de liberté, d'égalité, de fraternité. Une loi de liberté parce que je considère que dans certaines circonstances, clairement définies par la loi, et ce sont les critères justement qui sont inscrits dans ce texte qui le précisent, on doit pouvoir bénéficier d'un droit à pouvoir partir sereinement lorsqu'on est condamné par la maladie et lorsqu'on endure des souffrances insupportables. Une loi d'égalité, parce que la réalité de notre pays aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un certain nombre de personnes qui ont recours à l'aide dans la clandestinité d'un médecin qui vous aide à partir tranquillement, sereinement.
Là, ça existe aujourd'hui en France ?
Mais bien sûr que ça existe. Je veux dire, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne le voient pas. C'est la réalité de la clandestinité d'aide à mourir qui se pratique, j'allais dire, chaque jour dans notre pays, dans le secret. Dans le secret. Voilà. Souvent, les médecins disent aux familles, on a fait ce qu'il fallait. Et ça, voilà, tout le monde comprend. Et puis, il y a ceux qui partent à l'étranger parce que d'autres pays à nos frontières ont eu le courage de légiférer bien avant nous. Et puis, une loi de fraternité, parce que je considère à titre personnel, et je respecte évidemment toutes les convictions et celles qui sont inverses des miennes tout autant, évidemment, c'est de pouvoir accompagner jusqu'au bout une personne en fin de vie. Ça passe évidemment, vous l'avez dit, par le développement des soins palliatifs. Je me suis beaucoup battu pour ça, mais ça passe aussi, je pense, par ce nouveau droit, une aide à mourir, qui me semble aujourd'hui être un droit essentiel pour pouvoir éteindre la lumière au moment où on le souhaite et quand la maladie vous condamne à un décès à brève échéance.
Des opposants à ce texte sur l'aide à mourir, il y en a dans chaque parti, c'est important de le préciser. Ces opposants craignent des dérives. Ils souhaitent notamment que les personnes qui bénéficient de cette aide à mourir aient auparavant eu accès ou au moins eu la possibilité d'avoir recours aux soins palliatifs. Est-ce que cela, c'est présent dans le texte ? Est-ce que chaque personne qui bénéficiera, si je puis dire, de l'aide à mourir aura eu un avis favorable pour bénéficier des soins palliatifs ?
D'abord, la première chose, c'est que les soins palliatifs ne peuvent pas être une obligation, parce que depuis la loi Kouchner, un malade, et c'était une grande avancée, a le droit de refuser des soins. Donc, imposer quelque part le passage par les soins palliatifs pour bénéficier d'un droit à une aide à mourir, ça serait contraire à la loi Kouchner et un droit fondamental de refuser des soins. Ensuite, la loi prévoit que lorsqu'il y a une demande d'aide à mourir, le médecin sollicité rappelle que des soins palliatifs peuvent accompagner la personne et peuvent effectivement la prendre en charge. Après, c'est la volonté du patient qui s'exprime. Et par ailleurs, comme nous avons engagé avec le gouvernement un plan décennal de développement des soins palliatifs, avec la présence à minima d'une unité de soins palliatifs dans chaque département. Je rappelle qu'on revient de très loin en France. Donc il y aura un développement des soins palliatifs qui permettra de répondre à certaines demandes. Mais je le redis, il y a un certain nombre de malades, par conviction, par choix, ne veulent pas passer par les soins palliatifs et veulent bénéficier d'une aide à mourir quand ils sont dans une phase agonique, qu'ils sont condamnés par la maladie et que les souffrances qu'ils endurent leur deviennent insupportables. Et donc c'est pour ces personnes-là que ce droit pourra effectivement s'appliquer.
Et vous entendez hein, les arguments des parlementaires qui sont opposés à ce texte, qui font part notamment de l'état d'esprit des personnes très âgées qui ne veulent pas être une contrainte pour leurs enfants et qui pourraient, dans ce cas-là, demander l'aide à mourir. Et que dites-vous à toutes ces personnes très inquiètes aujourd'hui en France ?
Je dis d'abord que cette loi sur la fin de vie ne concerne pas l'âge, elle concerne la maladie grave et incurable. Vous êtes âgé, vous n'aurez pas droit à une aide à mourir, même si cette personne demande 10, 15, 20 fois à pouvoir bénéficier d'une aide à mourir, elle ne pourra pas y accéder. Les dérives, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'absence de loi ouvre la porte à des dérives éventuelles où la volonté du patient, finalement, n'est pas exprimée officiellement. Dans le cadre d'une loi, les choses sont claires. Vous faites une demande, tout cela est formalisé, encadré par la loi, avec un médecin qui doit rendre compte de toutes les étapes du processus. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le fameux colloque singulier entre le patient et le médecin. Et donc, les dérives, c'est aujourd'hui. Et la loi, elle est là pour justement protéger et encadrer. C'est le principe même de la loi, c'est d'empêcher au maximum les dérives. Et donc, je le redis, l'âge n'est pas un critère pour pouvoir bénéficier d'une aide à mourir. Malheureusement, on peut être en fin de vie à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 90 ans. C'est la pathologie qui comptera et en aucun cas le fait d'en avoir marre de la vie sans être malade, ça n'ouvrira pas un droit à une aide à mourir, c'est très clair.
Voilà, comme cela peut se passer par exemple en Belgique où des personnes gravement dépressives ont pu bénéficier de cette aide à mourir. Qui injectera le produit létal ? Cela a été très important lors des discussions au Parlement.
Alors il y a un principe qui est celui de l'auto-administration comme règle principale. Et moi j'avais tenu en tant que rapporteur général à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité concernant des malades qui ne seraient pas en capacité physique de faire le geste. Cela aurait été la double peine, c'est-à-dire qu'on aurait eu des malades dans une situation de santé qui rendait impossible l'auto-administration, et parce que leur état était encore plus problématique que d'autres, ne pourraient pas bénéficier de cette aide à mourir. Donc le principe, c'est l'auto-administration, mais quand le malade n'est pas en capacité physique de faire le geste lui-même, il peut solliciter un médecin ou un infirmier pour faire le geste. Ce médecin ou cet infirmier ayant la possibilité de, évidemment, faire valoir sa clause de conscience. Donc aucun soignant ne sera tenu, bien évidemment, de faire ce geste. Et seuls ceux qui seront volontaires pour le faire, le feront.
Parce que vous l'avez vu, hein, les médecins, beaucoup de médecins en tous les cas, sont assez critiques vis-à-vis de ce texte. Ils estiment que leur devoir n'est pas de donner la mort, mais plutôt de sauver la vie. Vous entendez ces médecins et j'imagine que vous avez discuté avec eux.
Oui, je trouve qu'on entend beaucoup les médecins qui sont contre, mais j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous le verrez dans les années qui viennent, qui seront là pour accompagner leurs malades. Et d'ailleurs, beaucoup le font. J'ai même entendu d'ailleurs des médecins hostiles qui parlaient de rupture anthropologique et qui ont avoué l'avoir fait eux-mêmes dans le secret. Ils l'ont dit publiquement. On l'a fait. On l'a fait à l'hôpital. On l'a fait dans le silence d'une chambre. Ils l'ont fait. Donc faisons une loi où chacun pourra accomplir ce geste que je considère être de fraternité et où le médecin ou l'infirmier qui acceptera de le fera dans le cadre de la loi et non pas dans le secret d'une chambre d'hôpital.
Cette loi votée ce mardi à l'Assemblée nationale, elle sera définitivement promulguée le 15 juillet prochain. Olivier Falorni, vous êtes l'une des figure de cette question liée à l'aide à mourir. C'est un sujet très, très intime. Chacun des avis peut bien entendu être entendu. Pourquoi ce sujet vous touche particulièrement ?
Parce que c'est une question d'humanité et puis c'est une question d'application de nos valeurs républicaines, comme je l'ai dit au tout début de notre échange. les principes de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont pas, selon moi, respectés aujourd'hui en ce qui concerne la fin de vie de nos concitoyens en France. Et je déplore que beaucoup de pays, alors je le déplore non pas pour eux, mais pour nous, que beaucoup de pays aient légiféré bien avant la France. Donc c'est une question de principe, mais c'est aussi une question d'humanité, parce que je considère que l'accompagnement de la fin de vie, c'est un moment important. Et je pense que cette loi vise à apporter plus d'humanité. Moi, je respecte toutes les convictions, toutes, et je l'ai montré d'ailleurs, je crois, dans les débats parlementaires. Mais je considère que cette loi apportera une humanité et une attention particulière à ceux qui sont confrontés à l'agonie, qui n'en peuvent plus. Parce que, vous savez, mon expérience de la vie m'a amené à me rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a parfois pire que la mort.
Les partisans de ce texte estiment qu'il s'agit là d'une avancée sociétale, d'une loi progressiste. Est-ce que ce texte est amené à évoluer, sera amené à évoluer dans les années, dans les décennies à venir? C'est le cas de l'ensemble des lois sociétales qui ont été votées ces dernières décennies.
Je n'en sais rien. D'ailleurs, durant les débats, lorsque certains députés, notamment des Républicains ou du Rassemblement national, s'indignaient du vote de cette loi, je leur ai dit, mais écoutez, il y a des élections présidentielles et législatives en 2027. Si vous avez la majorité, je ne doute pas une seconde que vous abrogerez cette loi. Ce qu'une majorité a voté, une autre majorité peut défaire. Ben, je n'ai eu aucune réponse à cela. Est-ce que M. Bardella, est-ce que Mme Le Pen, s'ils sont élus à l'Élysée, s'ils ont le pouvoir ici à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils l'abrogeront? Puisque cette loi est si abominable que ça, on ne peut pas ne pas abroger une loi abominable. C'est inenvisageable. Donc, moi, je ne peux pas vous dire quel sera l'avenir de ce texte. Peut-être qu'il sera abrogé, peut-être qu'il sera modifié.
Ma question, c'était sur l'évolution et sur d'éventuelles avancées ou ce qui serait, en tous les cas, considéré comme des avancées.
Moi, je ne peux pas prédire l'avenir. Moi, j'ai essayé d'œuvrer pour avoir un texte équilibré, de trouver aussi un équilibre entre des parlementaires qui étaient favorables à ce texte, mais qui avaient peur, effectivement, qu'il n'y ait pas assez de critères, assez de garde-fous. Et puis ceux qui trouvaient que le texte n'allait pas assez loin, qui trouvent encore que ce texte ne va pas assez loin, mais qui ont compris que s'ils voulaient que ce droit soit voté dans la loi française, eh bien, devaient acter aussi le fait qu'il fallait trouver cet équilibre. Alors, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 15 ans,